L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Taoufir Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité, en lutte antiterroriste et en défense internationale. Nous allons solliciter sa longue expérience de pas moins de 20 ans dans la lutte antiterroriste contre le djihadisme islamiste pour analyser les tenants et les aboutissants de l'attentat terroriste qui a secoué Moscou ce vendredi 22 mars visant le Crocus City Hall. Nous pencherons également sur le départ des forces américaines du Niger et sur l'évolution de la situation à Gaza. A tout de suite sur les ondes de Radio Spoutnik Afrique. Le vendredi 22 mars au soir, l'attaque terroriste contre la salle de concert Crocus City Hall en banlieue de Moscou a fait au moins 139 morts selon les dernières données du comité russe d'enquête. 182 autres personnes ont été blessées, indique le ministère de la Santé de la région de Moscou. Le président a déclaré le 24 mars jour de deuil national. 4 suspects ont été amenés à un tribunal de Moscou. Ils risquent la prison à vie. Leurs complices ont également été arrêtés. Les lettres de condoléances sont arrivées de tous les chefs d'État des quatre coins du globe, dont certaines, malheureusement, suscitent beaucoup d'interrogations sur fond d'une prétendue revendication de cette attaque par l'organisation Daesh. En effet, la Maison-Blanche et l'Élysée, après quelques phrases de condoléances de bon usage et de bonne séance, se sont tout de suite précipités à dédouaner l'Ukraine de cet acte et faire porter le chapeau à Daesh, alors que l'organisme d'enquête russe n'a rendu aucune conclusion à ce moment. Lors d'une réunion avec les chefs du gouvernement, des régions, des services spéciaux et des forces de l'ordre, le président russe Vladimir Poutine a appelé à trouver les véritables commanditaires de ce crime odieux. Écoutons-le.
Ceux qui ont planifié cet attentat terroriste espéraient semer la panique et la discorde dans notre société, mais ils se sont heurtés à l'unité et à la détermination de faire face à ce mal. Nous savons que ce crime a été perpétré par des islamistes radicaux, dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles. Mais nous voyons aussi que les États-Unis, par divers canaux, tentent de convaincre leurs satellites et d'autres pays du monde que, selon leurs renseignements, il n'y aurait aucune trace de Kiev dans l'attaque terroriste de Moscou et que l'attaque terroriste sanglante a été commise par des adeptes de l'islam, des membres de l'organisation État islamique interdite en Russie. Nous savons par qui cette atrocité contre la Russie et son peuple a été commise. Mais c'est le commanditaire qui nous intéresse. Dans le cadre du travail conjoint de nos services spéciaux et de nos agences chargées de l'application de la loi, nous devons obtenir des réponses à toute une série de questions. Par exemple, les organisations islamiques radicales, voire terroristes, sont-elles réellement intéressées à frapper la Russie, qui prône aujourd'hui une solution juste à l'escalade du conflit au Moyen-Orient ? Et comment les islamistes radicaux, qui se présentent d'ailleurs comme des musulmans fidèles, professant un islam soi-disant pur, s'y prennent-ils pour commettre des atrocités et des crimes graves pendant le mois du Ramadan, sacré pour tous les musulmans? Ces questions, ainsi que d'autres interrogations professionnelles plus spécifiques, doivent encore trouver une réponse pour que l'enquête sur le crime commis à Moscou soit objective. Une chose est absolument claire. Le terrible crime commis le 22 mars dans la capitale russe était un acte d'intimidation, comme je l'ai déjà dit. Et la question se pose immédiatement, à qui cela profite-t-il? Cette atrocité peut être seulement un maillon dans toute une série de tentatives de la part de ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays par les mains du régime néo-nazi de Kiev. Et les nazis, c'est bien connu, n'ont jamais rechigné à utiliser les moyens les plus sales et les plus inhumains pour atteindre leurs objectifs. Bien entendu, il faut également répondre à la question suivante. Pourquoi les terroristes ont-ils tenté de se rendre en Ukraine après avoir commis leurs crimes et qui les y attendait? Il est clair que ceux qui soutiennent le régime de Kiev ne veulent pas être complices et sponsors du terrorisme. Mais il y a vraiment beaucoup de questions.
De son côté, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a rappelé que les États-Unis sont impliqués dans l'apparition de Daesh. Je la cite, « Consciemment ou non, les Américains ont participé à la création de ce groupe terroriste qui s'est mis à commettre des attentats épouvantables à travers le monde », a-t-elle indiqué. Et d'ajouter que Daesh a corrigé ses plans ces derniers temps et effectue désormais des sorties, surtout contre les ennemis et les adversaires des États-Unis. Les talibans en Afghanistan, les Iraniens, les autorités légitimes de Syrie et contre nous, ironisant qu'il s'agit, je la cite encore, d'un concours de circonstances étranges. Ainsi, d'où vient la certitude des autorités US et françaises que c'est Daesh qui est responsable de ce carnage ? Était-elle informée à l'avance ? Est-ce ça qui était derrière l'alerte aux attentats lancés au début du mois de mars par l'ambassade US et britannique à Moscou, demandant à leurs ressortissants d'éviter les rassemblements populaires. Comment Daesh, qui se trouve dans une situation de faiblesse après la défaite cuisante en Syrie, pourrait orchestrer une attaque majeure à ce niveau d'organisation à Moscou, sans encadrement, sans assistance et de manière indépendante. Pour répondre à ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact sur la sécurité et la paix dans le monde. J'ai le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Tawfiq Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité, en lutte antiterroriste et en défense internationale. Général Tawfiq Didi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour Monsieur Kamel, merci infiniment de me donner l'occasion donc, de parler à vos auditeurs africains. C'est un grand plaisir pour moi.
Alors, Général Didi, comment analysez-vous, en tant qu'expert dans la lutte antiterroriste, et pas des moindres, vous avez quand même combattu ce mouvement pendant 20 ans, cet attentat dans la salle de concert Crocus City Hall? Et comment on met en place la logistique nécessaire à cet attentat? Et puis l'hypothèse de la responsabilité de Daesh est-elle vraiment plausible?
Donc, je rappelle tout d'abord que même chez moi en Tunisie, on a depuis 2011 combattu donc, ces groupes terroristes et heureusement pour nous, on les a complètement éradiqués. Donc, pendant une dizaine d'années au moins, on était en contact direct pour combattre donc, ces groupuscules. Et je peux prétendre que je connais exactement leur mode opératoire, donc leur composition, leur manière de réfléchir, d'agir. Permettez-moi d'abord, Monsieur Kamel, de revenir un tout petit peu à l'histoire pour comprendre un peu le phénomène, si vous permettez.
D'abord, allez-y.
Il faut donc il faut reconnaître que Daesh, en fait, ce n'est pas un groupe qui est venu de nulle part. Parce que tout ce qu'on voit dans le monde, toutes ces organisations terroristes comme Daesh, comme l'ACMI chez nous en Afrique, donc Al-Qaïda au pays du Maghreb, qui agit en Algérie, au Mali, au Tchad, au Niger, donc Boko Haram, au Nigeria, au Burkina Faso, donc toutes ces, à Beit el-Maqdis, en Égypte, donc toutes ces groupuscules, tous ces groupes terroristes, en fait, viennent de la même source. Viennent de ce monstre créé par les Américains qui est Al-Qaïda, donc qui a été créé de toutes pièces pour combattre dans une optique de combattre un peu l'invasion russe en Afghanistan. À l'époque, les Soviétiques voulaient donc justement sauvegarder un peu le régime en Afghanistan, mais la perfidie des Américains ont fait que, avec l'aide bien sûr au concours de certains pays du Golfe pour financer donc cette création, ils ont créé de toutes pièces ce monstre. Donc, la conclusion, c'est que Al-Qaïda est à la source de toutes les organisations terroristes islamistes, y compris Daesh. Donc, c'est une première conclusion. Donc, d'abord, ils ont mis cette stratégie pour éviter le contact direct, donc la guerre directe avec les Soviétiques. On connaît très bien que les Américains, ils ont toujours recours à la perfidie, à la ruse, pour faire tomber leur adversaire sans combat. Mais c'est que le coup de septembre là, 2001, c'est que les Américains là, ils se sont aperçus que ce monstre s'est retourné contre eux. Donc c'est devenu un problème, un fardeau, parce que c'était un grand choc. On parle donc du choc du siècle. Ils ont compris que ce monstre, finalement, s'est retourné contre eux. Ils ont décidé de l'abattre. Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs stratégiques. Donc la guerre en Irak était la plus flagrante. Parce qu'en éliminant le régime de Saddam Hussein, ils ont ouvert la porte donc à ce groupuscule, donc dans un chaos total, à peut-être tenir une grande partie de l'Irak. C'est ce qui a amené plus tard à cet état fantôme du califat islamiste en Irak et en Syrie, qu'on a appelé Daesh. La meilleure illustration est venue après donc le printemps arabe. Les Américains n'ont pas voulu donc définitivement éliminer ces organisations terroristes, même si elles se sont retournées contre eux, parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent les utiliser pour donc dominer certains pays ou interférer dans des conflits au Proche-Orient. C'est ce qu'ils ont fait en Libye, par exemple. Mm-hmm. En Libye, ils ont aidé une organisation qui n'est pas très connue, Ansar Sharia. Je ne sais pas si vous avez une idée en Afrique. C'est une filiale d'Al-Qaïda, mais cette filiale a donc aidé les Américains pour faire tomber Kadhafi. Mm-hmm. Et on connaît très bien maintenant la situation de la Libye, qui est pratiquement un État failli, un État plongé dans le chaos. C'est pourquoi les Américains, donc, ils essayent de tenir ces organisations dans un état médian, c'est-à-dire ni trop fort, ni trop faible, pour les utiliser. Et comme ils vont le faire, effectivement, en Égypte. Mmh. Après le printemps arabe, après le 2011, 12 000 combattants de Beit al-Maqdis ont envahi le Sinaï. Et donc, ça a fait plaisir aux Israéliens, bien sûr, qu'ils visent à affaiblir l'armée égyptienne. Ils ont laissé faire, parce qu'effectivement, Beit al-Maqdis agissent effectivement aux frontières donc sud d'Israël. Donc 12 000 combattants, ça a donné beaucoup donc de mal à l'armée égyptienne pour éradiquer donc ces groupuscules ou cette filiale d'Al-Qaïda au Sinaï. Donc on voit très bien que la chose est un tout petit peu complexe. Ce n'est qu'après donc l'intervention russe en Syrie, parce que on se rappelle très bien que le califat, qui est parti de l'Irak, a envahi également une grande partie de la Syrie et a failli faire tomber donc le régime de Bachar al-Assad. Les Américains sont intervenus et, comme je l'ai dit, ils ne voulaient pas exterminer complètement les combattants de Daesh. La preuve, c'est que on a constaté ici en Tunisie qu'il y a au moins 1100 combattants de Daesh qui étaient soignés en Israël et qui ont même reçu la visite de M. Netanyahou. C'est la preuve que effectivement, ils voulaient donc laisser une partie de cette organisation donc pour les utiliser le cas échéant, avec bien sûr le concours des pays du Golfe. Il ne faut pas oublier le rôle du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans cette affaire-là. Donc ces deux pays-là qui ont armé, qui ont financé donc toutes les opérations de Daesh.
Tout le monde d'ailleurs se rappelle du scandale des accords de l'Yamama qui ont justement permis d'échanger des livraisons de pétrole contre des commissions occultes et qui ont servi justement à la CIA et au service de renseignement britannique de financer le terrorisme.
Effectivement. Donc je reviens à ce que je disais, vraiment la débâcle de Daesh est venue après l'intervention russe. Parce que là, c'était une décision de Poutine d'éradiquer et de sauver le régime de Syrien, de Bachar al-Assad, parce qu'on a vu que les dégâts étaient énormes et que si Daesh prenait place, donc, ou essayait plutôt s'accaparer de la Syrie et de l'Irak, c'en est fini pour le Proche-Orient, parce que là, ils ont des affiliations partout, ils peuvent donc déstabiliser tout le Moyen-Orient. Et Poutine a bien fait, effectivement, d'affaiblir extrêmement donc ce groupuscule, donc et maintenant il ne reste que quelques résidus sur la frontière donc israélienne et donc un tout petit peu en en Irak.
D'accord.
Maintenant, pour revenir à Daesh, en fait, ils n'ont que deux modes opératoires. C'est pourquoi, là, c'est très important ce que je vais dire. Mmh. Ils ont un mode opératoire lorsqu'ils sont en force, un mode opératoire lorsqu'ils sont en faiblesse. Donc, le mode opératoire lorsqu'ils sont en force, là, il s'agit de vraiment de grandes opérations d'envergure, c'est-à-dire des attaques armées, moyennant donc des armes de donc des Kalachnikov ou des armes anti-char, des explosifs, etc. Mais là, ils sont, lorsqu'ils font ce genre donc de d'attaque, c'est qu'ils sont en force. C'est-à-dire qu'ils ont leur logistique, ils ont leur encadrement, ils ont leur liaison, donc transmission, bien sûr, avec leurs commanditaires et avec leur base, bien sûr. Ça, c'est le premier mode opératoire. Le deuxième, lorsqu'ils sont en faiblesse, ils agissent selon ce qu'on appelle les loups solitaires, c'est-à-dire que un combattant désespéré, donc qui va vous faire un coup juste pour dire que l'organisation existe toujours ou pour donc un éclat médiatique. Ça, c'est les deux modes opératoires. On a vu que l'attentat de Moscou ne ressemble à aucun des deux modes opératoires. D'ailleurs, beaucoup de signes démontrent que c'est les combattants n'ont pas cette image d'Al-Qaïda ou de Daesh. Ils sont très loin. D'abord, l'attitude des assaillants. Normalement, les combattants de Daesh préfèrent le martyr plutôt que donc de se faire arrêter. Ils sont endoctrinés pour donc soit combattre jusqu'à la fin ou se faire éliminer. Et les signes extérieurs. Les combattants de Daesh ne coupent pas leurs cheveux. Donc c'est interdit pour eux. Ils veulent ressembler au prophète. Et donc, ils se laissent pousser les cheveux. Et ce qu'on a vu, ces combattants étaient des gens normaux avec une barbe légère qui ne ressemble aucunement aux combattants donc, de Daesh. Troisièmement, les combattants de Daesh ne se séparent jamais de leurs armes. Ça, c'est une constante. Je l'ai constaté pendant une vingtaine d'années. Ils préfèrent mourir que de donc, se séparer de leurs armes. Ceux-là, donc, ils ont jeté leurs armes et
ils sont partis.
Ils ont essayé plutôt de faire l'Ukraine. Troisième signe, les combattants de Daesh ont toujours des ceintures d'explosifs donc avec eux pour se faire éliminer et éliminer ceux qui veulent les assaillants ou ceux qui veulent les attraper. Donc, aucun signe des quatre donc, qui ont perpétré donc ne ressemble à Al-Qaïda ou à Daesh. Donc,
d'accord.
Dire que ce sont des combattants de Daesh, ça, ce n'est pas une hypothèse plausible pour moi.
De toute évidence, si je me le permets, l'organisation de cet attentat à Moscou n'est pas l'œuvre de loups solitaires, mais d'un réseau complexe d'agents, et c'est soutenu par des services de renseignement, et certainement. Et pour cause, et sur ça, je voudrais avoir votre avis, je parle sous votre contrôle, pour cause, c'est que la tentative de fuite via Bryansk prouve amplement ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que depuis les attaques ukrainiennes contre la région de Bryansk en 2023, cette région est fortement protégée par les Russes, par l'armée russe. Avec des champs de mines et de solides positions de défense à la frontière. Et puis, la zone est devenue si difficile à traverser qu'elle a été évitée par les forces ukrainiennes elles-mêmes, même dans le contexte actuel d'incursions terroristes à travers les frontières russes, alors qu'il y a eu de nombreuses attaques sur Belgorod et Koursk. Alors, général Didi, le fait que les terroristes ont tenté de s'échapper précisément par Bryansk n'indique-t-il pas qu'ils disposaient d'informations détaillées sur la manière de traverser la frontière et de trouver du soutien de l'autre côté? Et n'est-ce pas le signe que des services de renseignement, probablement ukrainiens, en tout cas, ont participé activement à l'opération fournissant les données nécessaires aux tueurs pour trouver le meilleur chemin pour échapper aux troupes russes?
Oui, absolument. Comme je l'ai dit au départ, d'après ma connaissance au mode opératoire des groupes terroristes islamistes, ce groupuscule-là ne ressemble en rien à ce que j'ai vu pendant 20 ans. Il s'agit plutôt d'un commando. Donc, un commando qui avait une mission bien précise de de fomenter un coup et de donc d'attaquer cette salle de concert et de revenir à leur base. C'est exactement ça. Et comme on a vu pour les attentats Nord Stream 1 et 2, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'Ukraine, avec le concours de la CIA, prépare. Bien sûr, la CIA ne va pas se mettre devant la scène, elle est toujours derrière. Donc, c'est comme si ils préparent, ils financent, ils organisent, ils donnent donc le renseignement, mais ils restent toujours en arrière-plan. Et ce sont les Ukrainiens, à mon avis, qui ont, avec le concours de la CIA, préparé donc ce coup, effectivement, pour essayer de frapper un grand coup à l'intérieur de la Russie, parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de riposte après l'échec de leur contre-offensive l'été dernier, et que, surtout, l'armée russe est en train d'avancer donc de façon sereine, donc au nord et au sud. Il ne reste plus qu'Odessa pour, à mon avis, que tout le château de cartes ukrainien s'effondre. Mmh. À mon avis, c'est un commando donc au service de l'Ukraine qui a fait le coup qui tentait de revenir à sa base, tout simplement. Et je suis sûr que la route a été préparée par les Ukrainiens donc pour la retraite de ce commando qui ne ressemble en rien. Et vous allez voir les jours prochains que les investigations vont effectivement s'acheminer vers ce que je suis en train de vous dire. Comme je l'ai dit il y a très longtemps à propos donc des attentats de Nord Stream, que c'était les Américains donc qui ont poussé l'Ukraine à couper ses pipelines, ce sera la même chose. Je suis sûr que d'ici très peu, on va découvrir que il s'agit bien d'un commando donc au service des Ukrainiens qui ont tenté de déstabiliser la Russie. Mais stratégiquement, c'est une erreur parce que ce coup-là va encore souder plus les Russes, mmh, et donc les pousser à aller de l'avant. Et vous allez voir, la réaction des Russes ne va pas se faire attendre pour aller de l'avant et terminer le boulot en Ukraine.
D'accord. Bien. Alors, pour continuer dans le même sens, il y a quelques semaines, donc plus tôt, les ambassades américaines et britanniques ont averti leurs citoyens d'éviter de participer à des événements publics à Moscou. Et ça, si l'on rajoute ça au fait que nous savons, que tout le monde sait que l'Ukraine, en tant qu'État mandataire, n'agit pas seule. Et si les services de renseignement du régime ont été peut-être impliqués dans l'opération, il y aurait certainement eu une coordination avec les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis, c'est ce que vous venez d'expliquer. Alors, Général Didi, si les États-Unis et le Royaume-Uni disposaient réellement de données indiquant l'imminence d'une attaque, la bonne chose à faire, il me semble, au moins d'un point de vue diplomatique, quand les relations sont normales et que les gens n'ont pas de mauvaises intentions, la chose à faire ne serait-elle pas alors de transmettre ces informations aux autorités russes et de coopérer avec elles pour contrecarrer l'attaque? Et ceci n'étant pas été fait, peut-on dire que ces deux pays ont agi avec de mauvaises intentions, soit en participant activement à l'attaque, soit en ignorant la menace? Dans les deux cas, le résultat est le même.
Et je connais suffisamment les 14 organisations donc, d'intelligence américaine, et je peux vous dire, et en toute honnêteté, que je n'ai aucun doute que la CIA était au courant de cette attaque. Et c'est toujours dans leurs habitudes. Hein. En Tunisie, ils ont prévu les attaques terroristes en Tunisie et ils l'ont donc à maintes reprises, leurs ambassades en Tunisie dit à leurs ressortissants d'éviter certains lieux ou d'aller au sud, et ils sont toujours au courant de ce qui se passe. Ouais. Mais cette fois-ci, ils sont au courant parce qu'ils sont donc derrière cette affaire. Parce que ils sont trouvés donc bloqués. Il n'y a plus de solution contre l'armée russe, contre l'avancée des Russes en Ukraine. Mmh. Et la chute de l'Ukraine serait une catastrophe stratégique pour les Américains. Donc, pour eux, il va falloir faire quelque chose pour arrêter cela. Et ils ont pensé à donc déstabiliser la Russie de l'intérieur, ce qui n'a pas marché. Et je suis certain qu'ils étaient au courant des détails, de la date, donc du lieu, etc. Et l'histoire nous montrera que ce que je vous dis est vrai, parce que ce qui reste puissant aux États-Unis, ce sont les capacités de la CIA et de la NSA et des organisations donc d'intelligence américaine qui opèrent un peu partout dans le monde en collaboration avec les Sanaïm, donc des Sanaïm israéliens qui sont au nombre de 500 000, des chiffres effarants, des chiffres incroyables, mais ils ont donc une main mise sur le monde entier et ils peuvent vous fomenter des coups de ce genre un peu partout dans le monde. Donc, je n'ai aucun doute que les Américains étaient au courant du lieu, de l'intensité de l'attaque et donc du circuit, etc. D'accord. Donc, d'ailleurs, le choix des Tadjiks n'était pas anodin. Parce qu'on sait très bien qu'en Russie, il y a un grand nombre de Tadjiks qui ont gagné un peu la main-d'œuvre en Russie et les cacher dedans était très facile. Mais l'histoire nous montrera que la CIA était au courant et qui était donc derrière cette affaire d'attaque à Moscou.
D'accord. Alors, une dernière question avant de passer à la situation à Gaza. Il y a un peu ces similitudes avec ce qui s'est passé là en Russie, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes. On peut voir beaucoup de choses, et je vous poserai la question après cette dernière question. Alors, des informations circulent sur l'arrivée de troupes régulières venus de France, d'Allemagne et de Pologne par voie ferroviaire et aérienne à Tcherkassy, au sud de Kiev. Donc, une force conséquente. Aucun chiffre n'a été divulgué pour l'instant, mais ils sont hébergés dans des écoles à toute fin, pratiques et vraisemblablement, il s'agit d'une force de l'OTAN. Alors, avez-vous des informations sur cette question et qu'en pensez-vous et comment voyez-vous l'évolution de la situation si cette information venait à se confirmer?
Je vais vous répondre parce que ce qu'a dit Dominique de Villepin, l'ancien donc premier ministre français, qui est un homme sage, un vrai diplomate, il a dit c'est trop tard. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'il va y avoir donc l'envoi de troupes au sol, ce sera trop tard. En tant que militaire, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de main-d'œuvre, il ne s'agit pas de nombre de combattants. Là, le problème en Ukraine est un problème de maintenant, non pas de supériorité, mais de suprématie militaire russe. Donc, dans une guerre où on voit très bien que l'armée russe est en train d'exploiter son complexe militaire, industriel militaire, donc qui lui fournit donc des chars, des munitions, des avions en grande quantité, et que de l'autre côté, donc il y a un appauvrissement, donc il y a des problèmes logistiques très sérieux concernant les obus 155, les obus de chars, les avions, les munitions d'avion. Donc tout ce problème donc va maintenant faire que la chute de l'Ukraine est inévitable, quel que soit. Donc, ce que vont faire les Américains ou ce que vont faire les Américains et les Européens, c'est trop tard. Parce que pour monter en puissance en munitions militaires et en matériel militaire, il faut beaucoup de temps. Ouais. Surtout que ceux qui s'occupent du complexe militaire industriel en Europe et aux États-Unis sont des civils. Mm-hmm. Ce n'est pas le cas de la Russie qui donc accapare, qui maîtrise donc son industrie militaire. C'est aux mains d'État. Mmh. C'est ça la grande différence.
Oui, oui,
on ne peut pas obliger des sociétés civiles à donc vous produire. Et je vous ai dit tout à l'heure que le problème vient de Gaza et de la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, parce que pendant 5 mois, les avions et les bateaux américains ne cessent de fournir à Israël donc toutes les munitions dont elle a besoin. Donc ce qui va vider les stocks et empêcher les Américains et les Européens d'agir en Ukraine. C'est trop tard pour moi, la victoire russe est déjà signée, et quoi qu'ils fassent, donc il ne leur reste plus que trouver des moyens diplomatiques pour résoudre le problème. Pour moi, le problème militaire est définitivement plié.
Bien, alors ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Taoufir Didi, pour la seconde partie de notre émission. À tout de suite.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Tawfir Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité, en lutte antiterroriste et en défense internationale. Général Tawfir Didi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission. Bien, alors,
merci beaucoup.
Je vous en prie. Pour confirmer les propos de notre invité, le général Tawfir Didi, je voudrais me référer aux récentes déclarations du secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nikolaï Patrouchev. Il vient de déclarer que le régime de Kiev était derrière l'attentat terroriste de Crocus City Hall. À son tour, le directeur du FSB, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Alexandre Bortnikov, a insisté que les services de renseignement de l'Ukraine devraient être reconnus en tant qu'une organisation terroriste. Rappelons à cet effet que le 26 mars, le chef des services de renseignement ukrainien, Vassili Malyuk, a laissé entendre que ces services étaient impliqués dans les assassinats ou tentatives d'assassinat de plusieurs hommes politiques et personnalités ukrainiennes et russes. On peut citer l'écrivain Zakhar Prilepin, le journaliste Vladlen Tatarsky et l'ancien membre du Parlement ukrainien Ilya Kiva. Vassili Malyuk a également cité les raffineries de pétrole russes, le pont de Crimée et les navires de la mer Noire parmi les cibles des services secrets de l'Ukraine. Dans ce contexte, le chef des renseignements ukrainiens a été inculpé par contumace par un tribunal russe dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Il y a quelques semaines, Victoria Nuland, avant de démissionner, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, avait fait une déclaration à Kiev selon laquelle la Russie aurait des surprises cette année, ce qui veut dire 2024. Et 12 jours plus tard, donc le 12 février, cet adepte du néoconservatisme straussien et viscéralement anti-russe et va en guerre a démissionné. Alors, qu'en pensez-vous, surtout dans le contexte où l'armée a déjà gagné, l'armée russe a déjà gagné la guerre en Ukraine, et c'est ça, est-ce ça qui est la principale raison de son éviction de l'administration Biden?
Effectivement, là, c'est une très bonne question parce que il faut un tout petit peu comprendre un peu l'état d'esprit des néoconservateurs aux États-Unis. Donc là, ils commettent une erreur fatale parce que ils sont toujours dans une optique de surpuissance. Les stratèges ou bien sûr les va-t-en-guerre comme vous les avez appelés, donc les néoconservateurs sont toujours dans cette optique que les États-Unis sont toujours la première puissance mondiale et qu'ils ont une hégémonie totale. Ils doivent avoir une hégémonie totale sur la planète, sur le monde entier. Mais je crois qu'ils sont en train de commettre des erreurs fatales. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu venir donc la puissance russe. Au même moment que la puissance américaine s'effrite, parce que depuis donc la chute de l'Union soviétique, ils ont donc diminué les effectifs, les budgets militaires, et c'est le cas également d'Europe, au même moment où la Russie est en train de se reconstruire, surtout sur le plan militaire. Là, ils ne peuvent plus avoir un affrontement direct avec la Russie, sachant que c'est la première puissance nucléaire mondiale. Mmh. Et lorsqu'ils se sont aperçus que les Russes ont rebâti leur complexe industriel, militaire, donc de manière exceptionnelle, là, ils comprennent que l'affrontement direct n'est plus possible. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont, comme d'habitude, utilisé la CIA, donc la ruse et la perfidie, pour essayer de déstabiliser donc la Russie. C'est ce qu'ils ont fait en utilisant malheureusement les pays baltes et surtout, l'Ukraine, qui, à mon avis, est une victime. L'Ukraine, pour moi, est une victime. Donc, ils ont fomenté un coup d'État et ils ont essayé par tous les moyens de déstabiliser la Russie, passant par l'Ukraine. L'échec est cuisant et les conséquences stratégiques vont être désastreuses sur les Américains. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont créé une alliance entre la Chine et la Russie. Mmh. Entre la Russie, la Chine et les BRICS, qui sont donc une montée en puissance extraordinaire. Là, ils se sont aperçus qu'ils viennent de commettre une erreur fatale parce que c'est le début de la fin de l'Empire américain, à mon sens. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. L'historien français Emmanuel Todd a sorti un bouquin extraordinaire qu'il a appelé « La défaite de l'Occident ». Il faut le lire parce que c'est un historien, ce n'est pas un politicien.
Il a décrit un démographe aussi.
Scientifiquement, ouais. Exactement. Il a décrit scientifiquement le début de la fin donc de l'hégémonie américaine et surtout de la défaite de l'Occident.
D'accord.
Donc, la Russie, pour moi, c'est une histoire de survie. La Russie est en train de gagner, non pas sur le plan militaire seulement, mais également sur le plan stratégique.
D'accord.
Parce que, vous allez voir, c'est comme un château de cartes, vous allez voir ce qui va suivre donc dans les années à venir. Donc, la CIA était au courant, et je suis sûr qu'ils ont fomenté, ils ont 12 points, on a repéré 12 sites donc à l'intérieur de l'Ukraine, d'où la CIA opère. Donc, le retour...
Et ça, c'est le New York Times lui-même qui le dit. Ce n'est pas nous. On ne peut pas être accusé de faire de la propagande pro-russe. Bien. Alors, le vendredi 22 mars 2024, dans la journée, soit quelques heures avant le crime du Crocus City Hall, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé officiellement, je le cite, « La Russie ne peut pas permettre l'existence à ses frontières d'un État qui a l'intention avérée d'utiliser n'importe quelle méthode pour lui retirer la Crimée, sans parler des territoires de nouvelles régions », donc a-t-il affirmé à la presse. Alors, comment lire cette déclaration d'un point de vue géopolitique, géostratégique et militaire, et peut-on comprendre dans le contexte de ce qui s'est passé au Caucus City Hall que c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer pour l'armée russe? Comment voyez-vous la suite?
C'est très simple. Pour moi, au départ, c'était vraiment une opération spéciale parce que, humainement, aucun pays ne peut voir donc, les habitants du Donbass, de ces régions-là, se font massacrer par donc, le régime nazi ukrainien et ne rien faire. Donc, ça, normalement, ça aurait été... tous les pays du monde auraient participé lorsqu'on parle de droit international, à sauvegarder ces populations-là. Donc, ce que les Russes ont fait d'abord, c'est venir au secours de ces populations-là et, par la même occasion, s'immuniser contre le régime nazi ukrainien et surtout les velléités et donc les projets américains dans la région qui essayent un peu d'endiguer, d'encercler la Russie et de la déstabiliser. Donc, maintenant, les choses se sont accélérées. Après les déclarations de Macron, après donc maintenant qu'on a comptabilisé plus que 13 000 combattants étrangers qui opèrent sur le sol ukrainien, donc les écoutes russes qui ont décelé donc ces conversations étranges entre les généraux allemands,
oui,
donc tout
absolument.
Le renseignement dit que l'Occident se prépare à vraiment faire un grand coup en Ukraine, essayer d'empêcher l'Ukraine de collapser, donc de tomber dans les mains des Russes. C'est trop tard, à mon sens, parce que les dés sont déjà jetés et que maintenant l'Occident est affaibli. Les réserves de munitions, et là je vous parle comme militaire, ils ont commis une erreur stratégique en vidant les stocks de munitions américains de l'OTAN en Europe et bien sûr. La guerre à Gaza qui a obligé les Américains à donner pratiquement tout leur stock à l'armée israélienne. Donc, ils sont en position de faiblesse. On est dans une guerre totale ou une question de survie pour la Russie. Et heureusement qu'ils sont en train de gagner parce que, à mon avis, la plus grande catastrophe stratégique serait que la Russie tombe. On n'est pas dans ce cas de figure.
Ouais,
c'est
l'inverse
qui se passe parce que les conséquences sur le monde seraient vraiment dramatiques. Là, c'est l'inverse, c'est l'Occident, les États-Unis qui commencent donc à laisser des plumes.
Ce qui m'intrigue dans ce qui se passe, on sait que Israël est un paravent de l'Occident. Donc, quand Israël tue au Gaza, c'est pas grave, il a le droit de se défendre. Mais si les Russes interviennent en Ukraine pour se défendre, là, c'est un problème. Ça pose un problème pour les Occidentaux. Et alors que normalement, un mouvement islamiste ou un djihadiste prône justement le martyr et puis prône la défense de la Oumma islamique, ne fait strictement rien par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ça fait 5 mois, nous n'avons pas entendu Al-Qaïda, nous n'avons pas entendu Jabhat al-Nusra, nous n'avons pas entendu Daesh dire quoi que ce soit sur ce qui se passe à Gaza. Mais là, comme d'un seul coup, voilà, il décide de venir à Moscou et de commettre un attentat. Alors, les deux choses, comment vous les voyez, général? Et puis, je vous laisse, bien sûr, évidemment, après le temps de développer sur cette situation, avant d'en venir à l'Afrique.
L'une des conséquences stratégiques de ce qui se passe à Gaza est donc la chute définitive des groupes terroristes dans les pays musulmans et les pays arabes, notamment. Donc, avant cette guerre, il y avait toujours ceux qui croyaient toujours que ces groupes, donc, prenaient de prêcher donc la bonne parole et voulait que donc installer la charia et que cette histoire est une histoire religieuse. Maintenant, après ce qui s'est passé, c'est un coup fatal pour tous les groupes terroristes dans tous les pays musulmans. Personne ne les croira après ce qui s'est passé parce qu'après 5 mois, on les a pas entendus. C'est vraiment le moment du jihad, si vous voulez vraiment parler de jihad.
Absolument.
Voilà, pour l'islam, il n'y a pas une meilleure occasion. Donc, l'une des conséquences, parce que là, je vais revenir un tout petit peu, parce que nous, on est en train de voir les images, mais pour un stratège militaire, les conséquences sont plutôt du côté des Palestiniens, et je vais vous l'expliquer. Donc, l'une des conséquences, c'est vraiment la fin de ces organisations terroristes donc, qui vont disparaître, et je crois que le coup de Moscou va être l'un des derniers.
Ouais.
Sinon, ils vont essayer de faire bouger en Afrique, si vous voulez bon, qu'on parle de ça également, parce que les Américains et les Français vont essayer de punir les pays subsahariens. Non, maintenant, revenons un peu à la question. C'est la première fois qu'Israël est mise en danger. L'existence même d'Israël est mise en danger parce que ils ont bâti leur doctrine militaire sur ce qu'on appelle donc une doctrine de puissance, une doctrine de dissuasion. Ils ont créé une armée qui va dissuader tous les pays limitrophes. Ce qui s'est passé, que maintenant, un groupuscule, un petit groupe de combattants, à peine 30 000, a essayé de tenir la tête devant l'une des armées les plus puissantes du monde pendant 5 mois et aucun objectif militaire n'a été donc atteint jusqu'à ce jour. Donc, c'est une conséquence extrêmement grave parce que l'État d'Israël ne pouvait pas donc soutenir ce genre de guerre. Ça, c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, ils ont essayé pendant 17 ans d'ensevelir et d'éradiquer donc la question palestinienne. Maintenant, elle est revenue au premier plan et on reparle maintenant de deux États, de la paix, etc. Après ce qui s'est passé à Gaza. Troisième chose, cette guerre a signé la mort de l'ancien ordre. Là, le rôle de Poutine va être déterminant. C'est la fin donc de l'ordre mondial. Donc, qui a prévalu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'hégémonie américaine, c'est la fin de l'hégémonie américaine parce qu'effectivement, on va constater que s'il y a un petit groupe qui a tenu tête à l'Occident, aux Américains, ce pan aérien continue pendant 5 ans et qu'ils ont pu résister, ça doit donner des idées à tout le monde. Et on s'achemine vers un nouvel ordre mondial plus équitable où il y a les Russes, il y a les Chinois qui ont ouvert les bras à tout le monde, qui vont parler donc de relations équitables, etc. Ça, c'est une grande conséquence stratégique. L'autre conséquence stratégique, c'est que maintenant, c'est la fin, malheureusement, je le dis, c'est la fin du droit international. Tant qu'il a été donc perçu et mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la fin de l'ONU, c'est la fin de la Ligue arabe, c'est la fin donc du droit international. On peut plus, après ce qu'on a vu sur les chaînes télé, donc parler de droit international. Après donc les massacres, après le génocide en direct et donc le silence assourdissant de tous ceux des pays qui parlaient de liberté, qui parlaient de démocratie, qui parlaient donc de relations humaines, de droits humains. Là, tout d'un coup, le rideau est tombé et on a vu la véritable face de l'Occident. Donc, ce qui est incroyable, c'est que pendant donc des siècles, nous avons parlé des droits des humains après la Révolution française et d'un coup, on découvre deux poids, deux mesures et qu'ils sont très, très loin donc de ce schéma-là. D'ailleurs, la démocratie elle-même est malade aux États-Unis. La démocratie est malade en Occident, en France, en Allemagne, parce que vous voyez, leur presse maintenant, elle est incroyablement donc dans un seul sens. Dans,
ouais, ouais.
Il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de donc ce sont les prémices de la chute d'un grand empire et la montée donc de nouveaux empires et de l'installation d'un nouvel ordre mondial. Ça, c'est certain.
Bien.
Même si je suis de ceux qui croient que la fin de la guerre approche. Hein.
D'accord.
Je suis certain parce qu'on ne peut plus aller plus loin.
Donc, général Didi, nous passons maintenant à la dernière question. Et c'est ce qui se passe un peu en Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Nous connaissons, c'est ce que vous l'avez évoqué déjà au début de l'émission, avec tous les groupes terroristes qui se sont affiliés, soit à Al-Qaïda au début, puis à Daesh par la suite, et tous les événements qui se sont suivis avec les décisions des pays qui ont changé de gouvernants, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d'interdire la présence des forces françaises, donc le Barkhane a pris fin et les forces françaises sont parties. Mais là, c'est les forces américaines qui étaient dans la base de drones d'Agadez au Niger qui partent par la décision souveraine des autorités du Niger. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette région ? Est-ce que ce qui se passe aussi a un lien avec tous les bouleversements que nous voyons un peu à l'échelle mondiale ? Notamment dans cette question-là de traitement du terrorisme.
Effectivement, il faut d'abord revenir aux sources parce que, au départ, les pays subsahariens étaient des pays stables. Malgré les problèmes économiques et parfois politiques, c'était des régions stables. Le chaos qui est donc provoqué par les Américains et les Français en Libye et donc la circulation de 30 millions d'armes a fait de telle sorte que c'était une aubaine pour les groupes terroristes qui donc se sont installés.
30 millions, quand vous dites 30 millions de pièces d'armes.
Je parle de Kadhafi a voulu armer son pays.
Oui.
Et je vous donne une donc information précise donc qui a été donc relayée par tous les spécialistes du monde. Il s'agit bien de 30 millions d'armes de poing, je parle de Kalachnikov, de mitrailleuses, d'armes donc moyennes. 30 millions d'armes qui ont circulé donc dans les mains des bandits et comme le chaos qui sévit en Libye, maintenant certains bandes vendent ces armes donc aux groupuscules terroristes. C'est ce qui va un peu participer à la déstabilisation des pays comme le Mali par exemple, dont tout le nord a été parfois infesté de ces groupuscules terroristes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les Africains, les pays africains, se sont aperçus qu'on leur volait leurs richesses.
Mmh.
Donc, surtout, alors, je parle de la France, je parle de l'uranium, je parle du pétrole, je parle de Total Énergie, etc. Donc, ils se sont aperçus qu'on leur volait leurs richesses naturelles. Et, paradoxalement, leurs ressentissants sont très mal accueillis en Europe. C'est-à-dire, d'un côté, vous me volez mes richesses, d'autre côté, on parle d'immigration, on exploite les nouveaux arrivés sur le continent, on les humilie, et vous avez vu cette montée de l'extrême droite dans toute l'Europe.
Mmh.
Donc, les pays africains ont décidé d'agir et donc d'ouvrir la porte à ceux qui veulent les aider vraiment. Et là, je parle de la Russie et de la Chine. La Chine et la Russie parlent donc de relations équitables, d'entraide mutuelle. ils n'ont pas d'exploitation, comme ça a été le cas donc pour les Français. Pour le cas des Américains, c'est un peu différent. Les Américains ont constitué une force qu'on appelle l'Africom, qui est toujours basée en Italie et qui cherche depuis des années donc des bases à cette Africom pour une mainmise sur l'Afrique, parce que c'est vraiment le dernier continent qui échappe aux Américains. Donc, le problème, c'est que maintenant, ils ont échoué. Et on a vu qu'ils vont punir maintenant tous les pays qui ont décidé donc de résister à l'hégémonie américaine. Le meilleur moyen, ce n'est pas une intervention militaire, ça n'a aucun sens. Ils vont effectivement essayer de faire bouger leurs pions. Et là, je parle de donc des groupuscules terroristes comme l'ACMI, Boko Haram, etc. Et je suis certain qu'ils vont essayer de faire des alliances avec ces groupes pour déstabiliser les pays africains qui doivent être très alertes. Et là, je parle de tous les pays africains, sans exception, parce qu'il y a un mouvement, il y a une espèce de révolution dans, en Afrique qui essaie de résister à l'occupation sous nouveau type de colonisation, un néo-colonialisme camouflé. Et je crois que les peuples d'Afrique, maintenant, ils ont besoin de partenaires véritables, de partenaires donc, qui veulent vraiment aider l'Afrique à s'épanouir, parce que là, on parle d'un très grand marché, hein. On parle de richesses naturelles, effectivement, mais on parle d'un grand potentiel qui va s'ouvrir si vraiment il y a une donc de relations équitables avec, par exemple, la Chine, avec la Russie, avec les BRICS, bien sûr. Et c'est le cas de mon pays, hein, qui essaye également de s'affranchir de cette colonisation, de diversifier un peu donc notre tissu de relations diplomatiques. Et j'espère que c'est le cas, ce sera le cas pour tous les pays d'Afrique. Ce sera un peu difficile, mais il faut résister. Il faut vraiment donc que ces peuples, d'abord, s'éveillent, voient la vérité en face, que ce ne sont pas des amis, que ce sont des usurpateurs, et que maintenant, s'il va falloir vraiment asseoir des relations diplomatiques, ce soit donc des relations équitables avec des pays qui nous veulent donc du bien. Mmh. Et je crois que ce que Poutine a fait en envoyant du blé gratuitement à certains pays africains était un geste extraordinaire pour leur démontrer donc que vraiment le monde a changé, que on s'achemine vers. Mais tout d'abord, il faut faire attention à la perfidie, à la ruse et aux moyens détournés des Européens. Vous savez, les empires qui sont en déclin, l'histoire nous les a appris, donc deviennent très très violents. Et donc, c'est ce qu'on Absolument. Va voir les années prochaines.
Absolument.
Le déclin des Américains et des Occidentaux ne se passera pas sans donc que le sang se verse sur les flancs de l'Afrique. Il faut faire très attention. Il faut que les régimes soient alertes et surtout un conseil, que les régimes soient vraiment solidaires avec les peuples. Mm-hmm. C'est vraiment là la garantie donc de la sauvegarde d'une nouvelle Afrique. Et j'espère que notre cher continent va passer le cap et effectivement essayer de donc d'évoluer vers un monde meilleur, un monde développé pour le bien des populations.
Et une dernière question, général Didi, est-ce que l'alliance qui s'est faite actuellement au Sahel entre les trois pays du Sahel, et que nous avons qui veulent mettre ensemble leurs capacités économiques, sécuritaires et militaires dans un cadre de coopération avec les BRICS, est-ce que ce ne serait pas l'exemple justement sur lequel on pourrait compter, voir comme un phare pour justement que les pays africains puissent reprendre en main leur souveraineté et leur développement?
Effectivement, l'Occident a fait donc c'est lui qui a découpé les frontières. Donc, la plupart des cas, ce sont des frontières artificielles. En fait, notre Donc, salut, nous, les Africains, c'est de s'unir. Parce que jusque-là, à part quelques tentatives comme la CEDEAO, etc., donc, il n'y a pas eu vraiment de coalition économique, politique sérieuse. Mm-hmm. Là, je salue ce rapprochement entre les pays, surtout dans un moment où ils doivent militairement être capables donc de riposter contre toute attaque et surtout de combattre efficacement contre le terrorisme. Mmh. Parce qu'à mon avis, il va y avoir une vague donc, de terrorisme donc, aidée par l'Occident qui va essayer de déstabiliser ces pays et les empêcher de s'unir. Et cette union est un excellent exemple et à mon avis, c'est un rempart contre d'éventuelles perfidies ou d'éventuelles attaques donc, de l'Occident qui va pas se laisser faire. Hein.
Est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, Général Didi, nous avons vu qu'après justement l'échec de Daesh en Syrie et en Irak, beaucoup de ces combattants se sont redéployés dans la région du Sahel. Il y a beaucoup de rapports de services d'enseignement qui le confirment. Est-ce qu'on risque de voir la même chose se reproduire avec le cas ukrainien?
Oui, pourquoi pas? Parce que effectivement, le problème maintenant, c'est l'après-guerre. Il faut que les Russes aient un plan donc très efficace pour éviter cela. Parce que tous les pays faillis ou les pays qui sont en difficulté deviennent systématiquement un rempart pour les terroristes. Mmh. Bon, cette fois-ci, ce sera donc dans une mesure donc plutôt faible, donc, parce que ce qui s'est passé à Gaza a démystifié et a donné un coup très dur au groupuscule terroriste. Mmh. Avant, ils avaient des connivences, ils avaient de l'aide, il y avait de la logistique venue de gens qui croyaient à un islam donc plus rigoureux, un islam donc qui va se répandre dans le monde. Maintenant, tout le monde musulman donc a vu ce que c'était ces groupes terroristes, qu'ils n'avaient rien donc des préceptes de l'islam, que c'était vraiment des agents des Américains et des Occidentaux. Donc ça, c'est suffisant pour donner un grand coup, mais faut pas oublier que l'argent peut mener, donc, comme on l'a vu à Moscou, parce que là, j'ai vu les quatre assaillants, ils n'avaient rien de musulmans, ils n'avaient rien, donc aucune marque, c'est vraiment un commando, c'est des gens qui courent après l'argent, qui n'ont rien donc de religieux dans leur action. C'est ce qui va se passer, à mon avis, mais il faut être très prudent. Parce que avec de l'argent, on peut tout faire. D'accord. Vous le savez très bien. Il faut que les pays africains soient alertes, soient donc éveillés pour éviter que ces groupuscules ne se réinstallent chez eux. Et comme bien sûr le cas pour la Russie, ils doivent vraiment faire très attention, parce que le dernier moyen qui reste aux Occidentaux et aux Américains, c'est de transformer l'Ukraine en un fief de terroristes pour essayer donc de narguer ou de déstabiliser la Russie. Mmh. C'est mon avis, bien sûr.
D'accord.
Mais je crois que les Russes ont compris la leçon. D'ailleurs, je constate que militairement, ils sont en train de s'aguerrir. Mmh. Je suis de très près l'évolution de l'armée russe. Ils sont devenus très redoutables sur le terrain. Ce n'est pas comme le début de la guerre, comme aujourd'hui. Hein.
Absolument.
Et des tactiques nouvelles que nous, les militaires, on ne connaissait pas. C'est le combat des fantassins avec des drones. Ça, c'est une nouveauté. Maintenant, ils excellent donc, dans ce genre de combat. Ils excellent donc, dans plusieurs procédés. Et nous, militaires, on est en train de voir une armée qui se reconstruit, qui devient très aguerrie, très, très professionnelle. Et c'est une garantie pour, bien sûr, protéger la Russie et empêcher que l'Ukraine ne devienne donc un rempart de bandits et donc des terroristes.
D'accord. Eh ben, je vous remercie, Général Tawfiq Didi, pour tous ces éclairages et pour toutes ces analyses. C'est un plaisir de vous avoir reçu encore une fois. Et j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci bien, M. Kamel. À très bientôt.
C'était le général Tawfiq Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité, en lutte antiterroriste et en défense internationale. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.